Patricia Martin, vous recevez l'architecte, paysagiste, docteur en sciences, Nicolas Gilsoul, pour son livre « Bêtes de ville » qui paraît aux éditions Fayard.
Bonjour Nicolas Gilsoul.
Bonjour Patricia Martin.
Je vais d'abord dire ce que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas zoologiste?
Non.
Non. Vous n'êtes pas ethnologue?
Non.
Vous n'êtes pas évolutionniste?
Non.
Non, je le dis, c'est important parce que à vous lire, on pourrait croire que oui. Alors, la ville, c'est 2% de la planète, c'est 50% de la population et c'est 75% des ressources. Ça va poser, ça commence à déjà poser des problèmes. Les animaux des villes ont de plus en plus de mal à y vivre, ou y vivent différemment en tout cas, mais ce sont, expliquez-vous, des précurseurs. C'est-à-dire que finalement, on peut prendre modèle sur leur adaptabilité.
Absolument, ils ont tout compris. Ils sont très très forts. Sachant qu'ils s'adaptent, ils mutent, ils s'adaptent physiologiquement et ils mutent comportementalement parlant. Par exemple, le merle. Vous l'avez déjà entendu, voilà, le matin, le printemps, on connaît le merle, on connaît le chant du merle. Eh bien, il faut savoir que dans certains aéroports, je crois que c'est en Italie, le merle a adapté ses horaires de chant en fonction des horaires de décollage et d'atterrissage des avions. La corneille au Japon va lâcher la noix sur un passage piéton, va attendre que les voitures écrasent la noix pour l'ouvrir, va attendre que le feu devienne vert et va traverser sur le passage piéton pour aller récupérer ses noix. Ça, c'est des adaptations complètement géniales, puis des adaptations physiologiques aussi.
Il y a aussi les sangliers, enfin, on va pas faire l'air du catalogue, mais les renards, les scorpions, les flamants roses, les pumas, la tortue.
La tortue, oui, oui, et à Bombay, qui est une très très grande ville, 20 millions d'habitants, il y a au centre de Bombay une forêt qui fait trois fois la taille de Paris, et dans cette forêt existent des léopards en liberté, une quarantaine de léopards en liberté, qui s'adaptent tant bien que mal à la ville, mais qui nous rendent des services. Et c'est là où ça devient intéressant aussi.
Quel genre de service ?
Alors, en Inde, il y a quelques années, ils ont chargé nos bestiaux d'antibiotiques pour les sauver, le bétail, sauf que les vautours ont mangé les carcasses, se sont empoisonnés, sont morts, et donc n'ont plus pu servir dans le charnier. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les chiens sauvages qui se sont développés, qui cherchent ça. Sauf que comme on est au pays de Gandhi, on va pas les tuer, on va pas taper dessus, etc. Mais on n'a pas l'argent pour les vacciner contre la rage. Et donc c'est le léopard qui de temps en temps sort de son bois pour manger les chiens enragés. Voilà, donc il y a des espèces de services comme ça qui se font dans la ville. C'est des équilibres très délicats, et surtout il faut apprendre à cohabiter avec ça.
Ben, apprendre à cohabiter quand on voit, je crois qu'avec Eric Delvaux, nous avons vu le même reportage, ces ours.
Sur les ours qui viennent se nourrir, voilà, chez l'habitant.
Chez l'habitant, oui, ils toquent quasiment aux fenêtres.
En Sibérie, en Russie, oui, c'est compliqué. Alors évidemment, c'est parce que d'un côté la ville s'étend, mais de l'autre côté, tous les services de la ville change notre planète, on le sait, COP25, on est en plein dedans, secrétaire général de l'ONU, faut arrêter la guerre contre la nature. Donc l'habitat des ours est en train de se réduire, et donc évidemment ils sont en train de se rapprocher des zones habitées. Il faut savoir un truc très comique, je pense pas que j'en parle dans le livre de ça, mais c'est une petite anecdote de plus. Il faut savoir que les ours polaires, eux, descendent, les grizzlies remontent, changement climatique aussi, et entre les deux, de temps en temps, ils se rencontrent dans les villes, et derrière les poubelles, ils s'entendent extrêmement bien, ils se reproduisent, ils font des hybrides qu'on appelle les grolards. Ouais. Mélange entre grizzly et polaire.
Cette capacité d'évolution, en fait, elle est valable pour tout, elle est valable pour les plantes aussi, par exemple, vous racontez l'histoire de cet acacia qui, pour ne pas avoir ses feuilles complètement mangées par les girafes, grandit de plus en plus.
Et montée en tige, et du coup, la girafe, petit à petit, par sélection naturelle, a eu son cou qui s'est allongé pour aller chercher les branches, et puis effectivement, quand la girafe mord les feuilles, l'acacia n'est pas très content, donc il produit un tanin qui a un goût amer abominable. La girafe a appris la chose, donc elle va chez le voisin pour manger d'autres feuilles. L'acacia n'est pas content, donc il fait des épines qui font 10 cm de long, des trucs terribles. La girafe s'adapte, elle a des lèvres à collagène comme les stars de cinéma à Hollywood, et elle a une langue préhensible, assez longue, très très costaud, pour entourer la branche et venir la manger du côté où il n'y a pas de... L'acacia n'est pas content, il fait du tanin encore plus, la girafe va voir le voisin, sauf que le voisin maintenant a été prévenu par le premier acacia, parce que l'acacia a mis en place des petits composés volatiles qui, avec le vent, vont prévenir les copains, une espèce d'alerte internet. Et tous les acacias se chargent en tanins, sauf que la girafe est très intelligente. Et elle évolue, darwinisme. Et donc, maintenant, la girafe va attaquer les acacias contre le vent, c'est-à-dire que elle ne reçoit pas, les autres arbres ne reçoivent pas le composant volatile.
Voilà. L'évolution, au fait, c'est la descendance avec modification ?
Oui.
C'est un peu ce que dit Pascal Pic.
Oui, absolument. C'est ce que dit Pascal Pic. Et ce qui me fascine, moi, en tant qu'architecte, c'est la ville. Parce que la ville est un accélérateur d'évolution.
C'est un énorme
extraordinaire. Incubateur. Ah oui, mais à une vitesse incroyable. Ouais. On parlait tout à l'heure des merles et des... Voilà. Mais très connue, c'est cette histoire de papillon de nuit qui s'appelle la phalène du bouleau, qui est dans le nord de l'Angleterre et qui va se poser donc sur le bouleau. Donc, une écorce blanche. Le papillon de nuit a une couleur blanche avec des petites mouchetures noires. Et 19e siècle, industrialisation, charbon, donc retombée de suie. La suie se colle sur le tronc. Le tronc devient noir et évidemment, les papillons blancs se font manger par les prédateurs. Donc, ne survivent que les papillons qui commencent à devenir noirs. La phalène du bouleau se transforme, devient noire. 60 ans plus tard, on arrête le charbon, les bouleaux redeviennent blancs, les papillons redeviennent blancs aussi. Donc une adaptation incroyable.
Mais aujourd'hui, où on peut dire qu'on est entré dans une nouvelle ère géologique, est-ce qu'on n'a pas tendance à, peut-être d'ailleurs avec raison, à diaboliser la ville en quelque sorte, à l'opposer complètement à la nature, alors qu'il peut y avoir un écosystème
Oui, c'est un écosystème. Ouais. Non, mais vous avez tout à fait raison, c'est un écosystème. C'est un écosystème hybride et extrêmement complexe,
oui.
Qui intéresse depuis 10-15 ans seulement les sciences naturelles, l'écologie. Il y a une branche de l'écologie qui s'appelle l'écologie urbaine qui s'intéresse à ces questions-là. On est en plein tâtonnement, c'est un laboratoire.
Ça veut dire que la ville du 21e siècle va complètement changer, n'aura plus rien à voir avec la ville d'aujourd'hui.
N'a déjà plus rien à voir avec la ville d'hier, avec la ville d'Haussmann, avec... voilà, les choses sont différentes. Si vous regardez quelques chiffres, vous avez parlé 2%, 50%, 75%, 40 000 tonnes de déchets par jour à New York. 6 degrés de différence de température entre le trottoir gauche et le trottoir droit de certains quartiers de Montréal. 25 mètres, Jakarta s'est enfoncé sous la surface de l'eau en moins de 10 ans. 289 jours de pluie à Copenhague. Donc c'est un environnement qui n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'extérieur, des îlots de chaleur urbains, etc. Et pour une espèce qui s'est adaptée, il y en a 100 qui ont disparu. C'est ça qui est aussi important à dire. On entendait tout à l'heure Isabelle Autissier qui rappelait ces chiffres de 40%. 80% des insectes ont disparu, volants ont disparu ces 30 dernières années en France et en Allemagne. Donc c'est ça qui est important, c'est que nous devons aussi faire évoluer cette ville pour nous adapter à ses comportements et à ces nouveaux animaux qui sont nos voisins.
Et changer nos regards et nos habitudes, comme l'a écrit Bernard Pivot, que nous recevons d'ailleurs tout à l'heure à 8h20 dans un article dans le JDD sur votre livre. Apparemment, votre livre l'a séduit.
Il lui a bien plu, j'ai eu l'impression. Oui, il s'est bien amusé.
Je trouve qu'il s'est bien amusé.
Oui, c'est important de changer le regard parce que on a tendance à penser qu'il y a des méchantes bêtes et des gentilles bêtes. Ouais. Et ça, il faut absolument qu'on fasse évoluer, parce qu'on a tous le droit de citer.
Merci beaucoup Nicolas Gilsoul. Bête de ville, petit traité d'histoire naturelle au cœur des cités du monde, est paru chez Fayard.